Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 5 du Souterrain. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les prochaines heures. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a au programme pour le show? C'est bien simple, on fait un retour avec Michel pour une chronique de la boîte de Pandore. Et en fin de show, il va y avoir le conte, un autre conte de Quentin Fourreau. C'est un conte un peu plus court, mais qui tire ses racines dans le monde grec. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai hâte de vous faire entendre ça. Puis, on va avoir aussi Sulfur et Tartaros en musique un peu plus tard. Puis, avant de rentrer dans le vif des chroniques et tout, je voudrais dire un gros merci à tous ceux qui ont downloadé les épisodes, qui ont écouté, qui ont suivi un peu les débuts du show. Merci à vous autres. Les commentaires qu'on a eus à date sont quand même vraiment cool. Puis, évidemment, ça nous pousse, ça nous motive à pousser la machine puis à essayer de peaufiner ça un peu plus. Pour ce qui est des chiffres, je vais être bien franc avec vous. Je m'attendais à peut-être un 10 downloads là, au début, puis... ça a été mieux que ça, je suis quand même content. C'est une bonne réponse. Puis pour avoir m'être informé avec des gens qui sont dans le milieu un peu, ce qu'on m'a dit, c'est que pour le genre de show plus niché qu'on fait, on se comptera pas de menterie, on est vraiment plus dans le côté black metal et tout. C'est pas quelque chose qui va chercher le grand public. Puis pour le type de show qu'on fait, à ce qui paraît, c'est des très bons chiffres. Donc, félicitations à tout le crew, puis merci à vous qui nous écoutez. Continuez de propager ça à vos contacts, à vos amis métalleux. C'est ça. Plus qu'il va y avoir d'auditeurs, plus qu'on va essayer de pousser la barre. Et donc, pour ce qui est des... je voulais vous parler aussi du fait qu'on a une page Facebook. Si jamais vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez entendre parler, ça va me faire plaisir de vous répondre juste à écrire là-dessus. Et on a aussi une page Instagram pour le show qui s'appelle Souterrain Podcast. Et pour chaque épisode, on a demandé aux chroniqueurs de nous fournir des photos en lien avec les sujets qui sont abordés dans leur chronique. Donc, ça va vous permettre d'avoir peut-être un peu de visuel sur les sujets qu'on va parler à chaque semaine. Donc, je vous invite à aller faire un tour là-dessus. Puis, tu sais, quand on commence un nouveau projet comme ça, il y a toujours des petits ajustements qu'on fait. Puis, un de ceux que moi, j'ai décidé de faire pour ma part en réécoutant le show, c'est que j'aimerais ça peut-être un peu plus peaufiner justement l'intro puis arriver avec de quoi d'un peu plus... peut-être balisé. Fait que je me suis donné un certain cadre. J'ai décidé que j'allais vous parler des sujets qui me tiennent à cœur sur le coup. Ça peut être soit un album que j'ai écouté dans la semaine avant l'épisode, que j'ai bien aimé, que j'ai décortiqué, que je vais vous parler. Un band que j'ai découvert, même principe. Qu'est-ce que j'ai écouté, qu'est-ce qui m'a accroché, des sujets par rapport justement au monde métal. Évidemment, vous comprendrez que c'est sans être de l'éditorial, c'est de l'opinion. Fait que, encore là, moi, je vais y aller avec mon opinion, mon expérience, les faits que moi, je sais ou que j'ai vécu. Puis, je vous invite à m'écrire sur la page du Souterrain pour nous dire si vous avez justement des expériences du genre à partager ou si justement vous trouvez que ça n'a juste pas rapport à ce que j'ai dit puis que vous avez des arguments, shootez, ça va me faire plaisir de vous lire. Évidemment, si vous êtes juste pour me dire que j'ai pas rapport avec aucun argument, je vous dis d'avance que je m'en crisse. Alors, c'est ça. Arriver avec des arguments, ça va me faire plaisir de lire ça. Puis qui sait, si je suis dans un champ de blédin à 200 dans le fond, qui sait, je vais peut-être rectifier le tir et justement revenir sur mon opinion. Parce qu'il y a une chose qui est sûre en vieillissant, c'est que quand on est jeune, on est peut-être plus arrogant et confiant de nos choses. En vieillissant, on a peut-être un peu plus l'humilité quand on se fout. Fait que je pense que je suis rendu là. Si jamais, c'est ça. S'il y a des affaires que vous n'êtes pas d'accord, là, confrontez-moi, ça va me faire plaisir. Bref, c'est ça. Là, comme intro justement de cette semaine, ce que je veux vous parler, c'est la composition. Parce que il m'est arrivé quelque chose cette semaine qui m'a vraiment... Ça m'a jeté un peu sur le cul. Je pensais pas qu'en 2020, que s'il y avait encore des bands qui faisaient ça. Puis, je me suis dit, je vais saisir la balle au bon pour en parler dans le show puis donner justement mes deux scènes sur le sujet. Donc, il faut savoir premièrement que la composition... Il y a deux types de musiciens dans la vie. Il y a ceux qui composent puis il y a ceux qui interprètent. Puis ça, on décide pas de lequel des deux qu'on est en tant que musicien. Ça vient tout seul dans notre façon d'apprendre, dans notre façon de jouer. On va prendre nécessairement un des deux chemins. C'est bien rare. Ça se peut des gens qui sont bons dans les deux, mais il va tout le temps avoir une facilité pour le musicien dans un des deux styles, soit la composition, soit l'interprétation. Puis, quand on décide de prendre le chemin de la composition, bien, s'il vous plaît, prenez le temps de composer. T'sais, des fois, là, les gens sont trop pressés, puis ça paraît dans la composition. Il y a tout le temps, il y a un riff faible ou il y a un riff qui vient casser la dynamique. Tu as une super de bonne tune jusqu'à un certain point, puis un riff qui vient tout détruire. Ça, c'est des affaires de composition qui ont été faites peut-être un peu trop rapidement. C'est des coins ronds qui ont été tournés trop vite. Puis, ben, dans le fond, il faut tout le temps prendre ça comme quoi qu'il n'y a personne qui attend après votre album à part vous. T'sais, même si vous avez plein d'albums de sortie avec plein de bands, la première personne qui doit aimer l'album qui va sortir, c'est vous. Fait que prenez le temps de bien composer, de bien vous entourer. Puis évidemment, à un moment donné, ça amène un peu peut-être sa dynamique des one-man bands versus les groupes avec plusieurs membres. Ça, je vous dirais, c'est un sujet que je vais garder carrément pour une autre fois parce que j'en aurais long à dire là-dessus. Mais pour ma part, je vous dirais, prenez le temps de bien vous entourer quand vous composez. Puis ça peut juste être bénéfique pour le projet au final. Puis ben ça va être bénéfique pour les auditeurs aussi parce que vous allez aller chercher plus de monde parce que votre stock va être meilleur. Puis là, ben ça m'amène à comment qu'on fait pour sauvegarder ses compositions, comment ça fonctionne. Et là, avant de rentrer avec les logiciels et tout ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé cette semaine. J'ai entendu un album d'un band où la seule chose qu'il y avait de vrai instrument, c'était une guitare qui sature et un vocal qui grince. Tout le reste, c'était de l'orchestration MIDI. Et en l'occurrence, le logiciel Guitar Pro que tous les guitaristes connaissent et dont je vais vous parler un peu plus tard. Ça, c'est une hérésie. C'est totalement une hérésie de faire ça. Quand je dis de bien vous entourer, c'est ça que je dis. C'est au lieu de mettre des cochonneries en MIDI partout dans votre musique, puis de faire un album à moitié comme ça, prenez le temps d'aller chercher un drummer qui sait jouer, un bassiste qui sait jouer, un autre guitariste qui sait jouer pour faire de quoi d'entier, d'organique. Parce que, ben c'est bien de valeur, mais tu sais, je nommerai pas le Ben parce que je suis pas là pour y casser du sucre sur le dos, sauf que le résultat de tout ça, de ce que j'ai entendu, c'est bien simple, c'est que j'en ai rien à cirer d'écouter l'album parce que même s'il y a un ou deux bons riffs, mon oreille fait juste accrocher sur les défauts. Puis ça, ben, tu sais, moi, ils m'ont perdu comme auditeur, puis c'est sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont perdre à cause de détails comme ça. Et là, ça m'amène aux méthodes pour composer, comment ça fonctionne. Puis parce que même si la composition, ça vient avec tout le romantisme de l'inspiration, il y a quand même des façons de composer, il y a quand même des façons de sauvegarder ce qu'on a composé, ce qui est sorti. Donc, ben c'est ça, il y a ceux qui vont y aller, il y a plusieurs façons de faire ça. Une des plus communes, je dirais, c'est de composer puis d'y aller par la mémoire. C'est juste de jouer son riff jusqu'à temps qu'on se rappelle puis de monter, builder sa pièce riff par riff en pratiquant, en mettant. Souvent, c'est souvent des patterns de 4 ou souvent des chiffres pairs parce que justement, là, c'est plus facile pour la mémoire de retenir des patterns de 4 ou de 2 ou de 6 plutôt que tomber dans des affaires de prog avec des 3 répétitions puis 2 répétitions d'un tel. Puis fait ça, la méthode de composition par mémoire mnémotechnique, dans le fond, c'est quelque chose qui est un peu plus carré habituellement. Puis, ben, il y a des bands que ça va très bien, qui fonctionnent très bien comme ça, puis qui vont enregistrer puis de mémoire de même, puis que ça va bien aller. Par contre, le désavantage de ça, c'est exemple, si tu enregistres ton album en, je dis un chiffre de même, mettons en 2003, tu es rendu en 2015, tu décides de monter ton band live, de faire appel à des musiciens session, ben là, tu es un peu fourré parce que faut que tout le monde sorte à l'oreille des partitions, tu n'as aucune trace de ce qui a été enregistré du processus créatif. Moi, personnellement, c'est pas la façon que je préfère travailler. Je vois dans mes notes, je m'étais marqué « pas funky ». Il n'y a pas de place vraiment à mettre des petits arrangements superflus ou de la broderie sur ce genre de méthode de composition-là parce que justement, c'est vraiment sur la répétition qu'on va l'apprendre puis la mémoriser. Moi, il y a toujours ce que j'appelle la sélection naturelle du riff, que j'applique à tous les riffs que je compose. Puis ça, rendu là, je suis peut-être dans le champ où, tu sais, c'est... je suis peut-être le seul qui fonctionne comme ça, mais je trouve que c'est une excellente façon de suivre l'instinct. Parce que quand on compose, c'est pas nécessairement tout le temps bon que ce qui va sortir. Puis, les bons riffs, ceux qui sont vraiment accrocheurs, les verres d'oreille, c'est des riffs que après 2, 3, 4 jours, tu reprends ta guitare, tu reprends ton instrument, tu vas être capable de le rejouer parce que ton oreille va se rappeler à la limite de la mélodie, mais aussi de la rythmique. Puis, même en n'ayant rien noté, on va être capable d'aller rejouer ce riff-là. Les riffs qu'on n'est pas capable de jouer, qu'on se rappelle plus, ben moi, c'est ce que j'appelle la sélection naturelle du riff. Le riff, il n'est pas assez bon pour que tu t'en rappelles. Il mérite juste pas d'être dans une toune. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Il y a aussi la méthode d'enregistrer, surtout aujourd'hui avec les téléphones cellulaires, de s'enregistrer en train de jouer, puis de se prendre des notes comme ça. Moi, vous voyez, c'est le genre de petit truc que je fais personnellement, puis je me prends des notes comme ça. J'ai mon cellulaire, je vais parler dedans, je vais me donner la suite d'accords avec le tempo puis la signature. Exemple, je tends 6-8 à tel tempo. La suite d'accords, c'est tel accord. Puis après ça, je me donne 1-2 secondes. J'enregistre mon riff de guitare. J'ai juste ma guitare avec les accords. Puis je peux être 2 mois sans le réécouter. Puis après ça, ben quand j'ai à repiquer ce que j'ai sorti, ben j'ai déjà une bonne base. J'ai juste à rappeler le mouvement à mes doigts. Puis ça va bien, je suis capable de faire de quoi avec. Ça, habituellement, tu le fais après que le riff ait passé la sélection naturelle du riff. Parce que quand ton riff sort au début, il est vraiment brut. C'est un peu comme des pierres précieuses. Il faut le voir comme ça. Tu sors un gros tas de roches, puis tu vas le peaufiner tranquillement, pas vite, pour finir avec ce qui va rester, le riff que tu vas enregistrer à la fin. C'est le meilleur de tout ça. Fait qu'il y a un certain processus dans l'épuration de ce qui est pas bon ou ce qui est moins bon ou ce qui va être une faiblesse par rapport à où tu veux aller avec ta toune. Ensuite de ça, tu as la... Ben, pour ceux qui ne composent pas par mémoire puis qui veulent se garder des notes et tout, il y a la façon bien simple d'enregistrer ou de taber, comme on dit en langage de guitariste, c'est de carrément écrire la partition de la chanson. Puis ça, ben, ça a un très, très gros avantage. Le premier, évidemment, c'est que votre chanson est déjà notée, fait que c'est facile de la pratiquer. Puis rendu là, si vous avez besoin d'avoir des musiciens session, vous imprimez la partition, vous la donnez à la personne est capable de monter ça exactement comme c'est enregistré sur l'album. Puis si vous travaillez avec du monde qui sont un peu sur le sens du monde, habituellement, ça sonne comme le CD. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage chez ça, c'est qu'en ayant les partitions, peu importe avec qui tu es obligé de travailler, parce que bon, oui, quand tu pars un band, tu veux jouer avec les mêmes gars pendant tout le temps de ton projet, mais la vie fait que des fois... il y a des changements de line-up et tout. Quand tu as des offres de concert rapidement puis que quelqu'un ne peut pas, tu as besoin d'une session, avoir la partition, là, ça sauve vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Puis ça, c'est le gars qui a fait beaucoup de sessions qui vous le dit. Quand tu pognes un contrat avec un band qui n'a pas de partition, c'est chiant, ça prend plus de temps. T'sais, oui, tu le fais parce que tu aimes ça, tu aimes la musique du groupe, mais dans le processus, le temps que tu travailles à ressortir la partition, à l'écrire au lieu du band, ben c'est du temps que tu pratiques pas, puis que tu perds, puis que tu n'es pas plus payé pour le faire. Fait que moi, personnellement, je trouve que c'est la meilleure façon de conserver sa musique, puis d'être capable de la partager après. Puis le gros avantage aussi que ça a, c'est que tu es capable, après ça, de faire des arrangements, d'essayer de faire différents arrangements sur tes riffs, puis au final, aller chercher l'arrangement qui va mettre le plus en valeur ton riff « rhythm ». Parce que, oui, le lead, c'est le fun d'avoir de quoi qui est par-dessus une mélodie, quelque chose qui va leader la toune, comme ça le dit. Sauf qu'il faut que ça soit aussi au service de la couche d'instruments qui est en dessous. Puis ça, quand vous avez un logiciel pour écrire vos partitions, ça donne tellement un gros coup de pouce parce que c'est pas vrai qu'on est tous des Mozart puis qu'on regarde ça puis que ça joue dans notre tête et qu'on entend tout. Les logiciels qui existent pour faire ça, c'est vraiment, ça donne un gros coup de pouce à plein de bands. Puis il y a plein de gros bands qui utilisent ça, autant que des débutants. Puis, je veux dire, c'est une des façons les plus communes, surtout avec la démocratisation de la musique qu'il y a eu depuis les années 90. même quelqu'un qui ne joue pas d'un instrument, qui a un logiciel, exemple, comme Guitar Pro, qui est un logiciel, je pense, c'est comme le plus connu. Là. Sinon, à l'époque, il y avait un logiciel qui s'appelait Syllabus, qui était... c'était super bien fait, là. C'était chaque instrument, c'était de l'échantillonnage réel en wave qui était emmagasiné. Puis dans le fond, tu programmais ta partition qui allait chercher chaque son original pour te faire ta mélodie. Tu étais capable de faire de l'orchestration. Moi, j'étudiais en musique, puis on utilisait ça. Tu es capable de faire de l'orchestration pour une vraie orchestre symphonique avec ça. Mais c'est des logiciels qui coûtent extrêmement cher. La licence annuelle, c'est dans les... quatre chiffres. Là. Donc, les gens vont plus se tourner vers un logiciel comme Guitar Pro pour aller taber leurs pièces parce que c'est un logiciel à un petit peu plus que 100 $ à peu près. Puis, bon, ben, tu sais, si vous êtes un peu débrouillard, là, on est Internet en 2020, je ne vous montre pas comment ça fonctionne. C'est ça. Il y a des logiciels comme ça qui vont donner un coup de pouce pour conserver justement vos compositions, puis les arranger, puis les retravailler. Moi, personnellement, je trouve, comme je disais tantôt, que c'est la meilleure façon de travailler parce que vous allez être versatile, vous êtes capable de travailler avec plein de monde avec ça. Puis, ça prend pas nécessairement des skills en musique ou en théorie musicale pour comprendre. N'importe qui prend le temps de s'asseoir avec le logiciel puis d'essayer un peu, un tant soit peu, c'est des mathématiques, la musique. Là. Les notes que vous voyez sur la portée, là, c'est des fractions. Fait que, tu sais, si vous êtes bon en fractions, là, vous allez être capable de faire de quoi avec ça. Puis, c'est super facile. Il y a des tutoriels qui sont sur Internet. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant, autant pour les gros bands que les projets qui débutent. Mais là où ce qui m'a amené à vous parler de ça aujourd'hui, c'est justement de prendre des sons d'un logiciel comme ça, comme Guitar Pro, qui est un logiciel dont le MIDI est quand même cheap. Tu sais, il y a moyen de s'acheter un contrôleur MIDI et d'aller enregistrer avec ça puis de faire de quoi de vraiment intéressant. Mais d'aller chercher un Guitar Pro puis de mettre ça sur votre album, ça fait pas professionnel, ça fait pas crédible. C'est un peu comme le Guitar Pro, il faut que vous le voyez comme Wikipédia. Quand tu ne connais rien là, d'un sujet, tu vas sur Wikipédia et tu apprends la base. Mais tu ne vas jamais citer ça dans un travail universitaire Wikipédia, à défaut de perdre ta crédibilité. Donc, c'est ça. C'est ce qui est arrivé cette semaine qui m'a fait réfléchir à ça. Puis, ben, je voulais vous en jaser parce que, tu sais, moi, c'est comme ça que ça fonctionne dans plein de projets auxquels je collabore. Puis, ben justement, comme je disais un peu plus tôt dans l'intro, mais si vous fonctionnez différemment, gênez-vous pas pour m'écrire. Puis, gars, je suis intéressé à savoir comment, c'est quoi votre processus créatif. Puis, je finirais peut-être par rapport à ça avec le fait que la démocratie, c'est bien beau pour la société, mais dans un groupe, ça fonctionne pas. La première affaire qu'il faut faire avant de composer pour un projet, c'est de s'entendre sur les bases de qui compose et qui compose pas. Puis, faut que chacun prenne son rôle. C'est quand tout le monde compose, habituellement, ça fait de la musique moins consistante, ça fait de la musique éclatée qui va un peu partout. Puis, il y a tout le temps, genre, le gars, tu sais, du band qui n'a rien composé à part un riff sur un album, puis que pour pas y déplaire, tu sais, quand t'as 14-15 ans, tu vas mettre son riff dans la toune pour qu'il soit content, pas qu'il s'en aille. Puis, ben ça, rendu à 20 ans en montant, c'est un riff de marde qui tue ta toune. Fait que, ce riff-là, faut être capable de dire au band que c'est mauvais, puis qu'on le garde pas. C'est pas parce que c'est quelqu'un du band qui l'a sorti que c'est bon. Faut que ça soit... Vraiment, il faut qu'il y ait une direction à la composition. Puis quand c'est tout le monde qui tire la couverte de son bord, il n'y en a pas de direction. Les projets qui fonctionnent dans la vie, là, c'est les projets qui ont un compositeur avec un frontman, qui a une certaine direction, que les gens qui vont se greffer autour, ils vont, oui, accepter de mettre leur touche, mais qui vont accepter surtout de jouer la toune de quelqu'un d'autre. Amener ses idées, c'est d'autres choses. Mais rendu là, ça, c'est à chacun sa façon de dealer avec le band. Quand vient le temps de négocier. Tu sais, quand tu rentres dans un projet, faut mettre carte sur table tout de suite. C'est comme dans un couple. Tu n'arrives pas avec des nouvelles affaires après 6 mois. Tu mets carte sur table au début, c'est à prendre ou à laisser, puis après ça, tu construis avec ça. C'est le même principe pour un band. Fait que ça prend quelqu'un qui mène, ça prend du monde qui suive. Puis suivre, ça veut pas dire être soumis puis être l'esclave de quelqu'un qui mène. C'est juste d'être au service de la musique. Puis ben ça prend quelqu'un quelque part qui va donner une direction à tout ça. Puis si vous voulez que votre projet fonctionne, je trouve que la meilleure façon de faire une bonne équipe dans un band qui est stable puis qui garde son line-up, c'est que tout le monde sache c'est quoi sa place. Un peu comme dans l'armée, tu sais. T'as des chefs, t'as du monde qui sont sous les ordres, puis tout le monde sait sa place, tout le monde avance dans la même direction. Dans ce temps-là, t'as pas le choix d'arriver à quelque chose de positif ou de du moins de créatif. Tu sais, de mettre sa touche dans sa façon de jouer, d'arriver avec une petite modification sur, tu sais, « Hey, t'as le riff en show, là, je mettrais sa petite passe-là. » Tu sais, ça, il n'y a pas de trouble. Mais au final, la toune, elle a été construite puis composée par quelqu'un qui avait une idée d'ensemble. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Quand on compose, dans notre tête, même si on joue juste un instrument, dans notre tête, on entend l'entièreté, le tout. Puis ça, ben, il y a juste la personne qui compose qui l'entend. Fait qu'il faut être capable de faire confiance à cette personne-là puis de la suivre dans le processus puis justement de prendre sa place pour essayer de rehausser la qualité sonore. Fait que bref, c'était mon opinion sur comment composer. Puis vous comprendrez que rendu là, comment composer puis quoi composer, ça, ben, c'est à vous de le trouver puis de le faire à votre façon puis de laisser juste s'exprimer qu'est-ce que vous avez à dire avec votre instrument. Mais c'est ça, pour les méthodes, pour essayer de conserver ce que vous avez créé, je pense que ça fait un peu le tour des différentes méthodes. Puis comme je disais tantôt, si vous avez d'autres trucs que vous voulez ajouter, puis écrivez-moi, ça va me faire plaisir, puis je ferai peut-être un retour dans un prochain épisode par rapport à ça. Et là, ben, ça m'amène, parlant de composition, à vous présenter un band de Québec qui sort son premier album. C'est un premier démo, dans le fond, qui va sortir sous une écarte de production, puis je pense que c'est Corderelle, c'est une coproduction. C'est Sulfure, groupe de Québec. L'album, c'est ça s'appelle album ou démo, là, j'ai pas mes notes, moi, je... En tout cas, je pense que c'est un démo qui sort en format tape. Ça s'appelle Neurotisme. La pièce s'appelle Endémie chtonienne. Et on vient d'entendre Endémie Ktonienne de la formation Sulfure, un nouveau démo en format tape qui sort, qui s'appelle Neurotisme. Vous pouvez les commander d'ailleurs sur Necrart Productions et Corde Red. Et là, ben, sans plus tarder, on s'en va s'entretenir avec Michel Perron pour une boîte de Pandore. Salut Michel, comment ça va?
Hey, ça va bien toi?
Yes, ça va très bien. Et je vais commencer la chronique avec ça. Finalement, tu m'as converti à Discogs.
Viens pas me dire que j'ai réussi à faire ça.
Eh oui. j'ai effectivement téléchargé l'application, j'ai commencé à m'initier à ça. Et je suis vraiment tombé dans quelque chose qui va me faire dépenser, là.
Bon, t'es tombé dans le piège, puis je vais être responsable de ta faillite personnelle.
Pas à ce point-là, mais quand même. Hier soir, j'étais à la galerie chez nous en train de fumer tranquille avec ma blonde qui me disait que la dernière fois qu'elle m'avait vu absorbé par une application comme ça, c'est quand j'ai découvert Untappd, qui est une application de bière.
Moi, donc, je pensais que c'était Candy Crush.
Non. Mais c'est ça, j'ai commencé à rentrer tranquillement, pas vite, ma collection. Je suis quand même surpris du lot d'items. À part le scanner de code-barre qui est vraiment de la merde, je suis vraiment surpris de l'info qu'il y a par rapport à ça, de comment l'application est complète. Bref, belle découverte, merci.
Un plaisir, mais en même temps, c'est une base de données qui s'update. Ça fait que si des fois tu trouves qu'une information est incorrecte, en tant qu'utilisateur, tu es capable de l'agrémenter puis d'aller faire des rajouts ou corriger des petites erreurs.
OK. J'ai vu aussi dans ce que j'avais dans ma discographie qu'il y a des albums qui sont pas répertoriés. Ça, est-ce que c'est quelque chose en tant qu'utilisateur qu'on peut bonifier aussi?
Oui, ça, exactement. Si tu décides d'ajouter un album, tu vas aller trouver la pochette, tu peux la prendre en photo, tu vas la soumettre à Discogs, avec toi, tu vas mettre les noms de chansons, qui l'a produit, en quelle année ça a été fait, puis eux autres, ils vont le rajouter à la plateforme, puis...
Okay.
Puis ça va s'updater. Dans le fond, ce qui est le fun, c'est que tu deviens un participant de la plateforme. Même si tu es un utilisateur, c'est pas quelqu'un de Discogs qui fait ça. C'est tout le monde qui peut le faire. C'est que demain matin, tu sors un nouvel album avec Chasse Galerie, tu pourras le faire toi-même.
OK. Vraiment intéressant. Bref, c'est ça. Je vais probablement contribuer à quelques albums que j'ai dans mon stock qui n'étaient pas répertoriés. Mais... c'est vraiment cool. Je vais d'ailleurs utiliser ta méthode de setting pour mettre mes affaires privées. J'ai ajouté une couple de connaissances, puis là, je me suis dit, c'est quand même drôle parce qu'il y a 3 personnes sur les gens que j'ai ajoutés sur mon profil Discogs qui m'ont dit « J'ai écouté la chronique dans ce terrain, puis j'ai changé mes paramètres après avoir écouté la chronique. »
Bon, ben tant mieux, ça a pu servir à quelque chose. Regarde, on n'est jamais trop prudent.
Yes! Et donc, trêve de Discogs, on va rentrer avec ton sujet de cette semaine. De quoi tu voulais nous jaser au juste?
Bien, cette semaine, je voudrais qu'on regarde comment éviter de se faire rouler dans cette période trouble où est-ce qu'on a beaucoup de revendeurs qui mettent des prix relativement élevés.
Oui, OK.
Bien, première étape, c'est la notion de pouvoir. Quand on est un acheteur ou un vendeur ou un trader, où est-ce que se situe notre prise? Dans le fond, c'est dans la connaissance du marché, la valeur, les tendances et savoir le prix juste, comme dirait Price is Right, Bob Barker.
Yes.
Et en même temps, on va faire un petit retour sur Discogs, parce que Discogs, comme tu dis, c'est super le fun, puis je t'ai vendu un peu ça comme étant la plus belle invention depuis le pain tranché. Mais en tant que tel, c'est que, oui, ça nous indique une valeur, comme je vous l'ai déjà dit, on a la valeur médiane, la valeur haute, la valeur basse, mais ça peut arriver des fois que cette valeur-là, on ne l'a pas. Pourquoi, justement? Comme tu me dis, Michel, il y a des items qui ne sont pas sur Discogs. Ben oui. C'est que là, ça veut dire que s'ils ne sont pas là, tu n'as pas d'historique de vente.
Oui, oui.
Donc, tu n'as pas de valeur médiane, ni de valeur haute. Puis, tu as d'autres cas de figure qui font en sorte que tu n'as pas non plus ces valeurs-là. Tu as la grande catégorie des 2B que j'appelle les barrés et les bannis de ce monde. Donc, qu'est-ce qui peut faire... qu'est-ce qui comporte les barrés, les bannis de ce monde? Eh bien, tu as les bootlegs. Dans l'optique que tonton, tu voudrais acheter un vieux picture disc de Mayhem avec deux, trois tunes tout croche, enregistré dans un garde-robe avec un 4-track qui sonne donc, donc le diable, ben tu pourras pas parce que les albums officiels, ce sont eux simplement qu'on peut vendre, mais tu es capable de les trouver sur la plateforme. Ils ont été interdits de vente en 2017, donc voilà à peu près 3 ans. C'est que là, tu es comme un peu sujet à être abusé par ton prochain, que si tu le trouves sur, on va dire, Marketplace ou une autre plateforme quelconque, ben, il va attribuer lui-même une valeur à l'objet parce que tu n'as pas de base référentielle, ce qui est un peu tannant.
OK. Quand tu disais que ça a été... C'est une loi qui a passé en 2017 qu'on n'a pas le droit de vendre des bootlegs. Est-ce que c'est une loi qui a passé au Canada, aux États-Unis?
C'est pas une loi, c'est Discogs, on dirait, qui se sont dit, nous autres, on vend juste les albums officiels des groupes. Je vous dis pas que tous les bootlegs du monde sont interdits de vendre sur Discogs. Faut-il encore qu'ils soient, d'après moi, reportés aux hautes instances de « il s'agit d'un bootleg, c'est mis non officiel ». Puis un moment ça passe dans le filtre, puis bang, t'as plus les références, tu peux pas l'ajouter non plus dans ta collection. Mais il apparaît toujours sur la plateforme.
OK, fait que dans le fond, il y a des cassettes d'un label louche mexicain, bootleg de mes bands, qui sont sur Discogs parce qu'on a réussi à passer le filtre.
Puis ils sont en vente, c'est parce que tu peux toujours les répertorier. Si tu veux, c'est comme les cassettes de Forteresse qui ont été faites il n'y a pas longtemps. Je me rappelle plus où, là, Taïwan ou je sais pas quoi.
Non, c'est au Mexique.
C'est au Mexique? OK.
Oui, ouais, c'est de lui que je parlais. En tout cas, les latino-américains et les russes sont très, très forts sur le bootleg.
Ils sont très proactifs. Les Grecs aussi.
Ah ouais, OK.
Oui, oui, j'avais déjà vu un live de Mayhem à Montréal. Tu sais, comment tu veux qu'un Grec se rende à Montréal là, avec 3-4 tonnes de qui avait été au show. Le premier retour d'Attila au Fouf dans le temps.
Ça, ouais. C'est, tu vois, j'étais pas au courant pour les Grecs.
Oui, les Grecs aussi. Même bagaille, Attila, là, une couple d'années, il cherchait celui-là qui avait fait Life Eternal en vinyle sans son consentement. Je pense qu'il n'a jamais réussi à mettre la main dessus. C'est pour ça qu'il est ressorti dans le dernier box, justement, de Mayhem, il n'y a pas longtemps.
OK, parfait.
Ensuite, quel autre item peut faire partie des barrés, les bannis de ce monde? T'as la musique à thème litigieux.
Excusez, je t'en réchauffe. À thème litigieux.
Oui, on se comprend.
Là, par là, on entend tout ce qui n'est pas politically correct en 2020, ce qui veut dire beaucoup de choses.
Oui, bien, en tant que tel, mettons que tu déciderais de te faire un nouveau groupe qui s'appellerait Torture Xénophobique, bien, il y a fort à parier que tu serais considéré comme étant un hater de ce monde et tu serais barré. Ton album serait affiché.
OK.
On pourrait consulter, mais interdit de vente. Donc, c'est que dans l'optique que tu veux en trouver un, une fois encore à quelque part, ben
faudrait que tu trouves le groupe, le contact du groupe pour acheter.
Voilà, tu n'as pas plus le prix. Tu n'as pas la valeur de référence. Oui, okay. Là est le problème. Et tu as parfois des albums qui ont été sortis sur des labels à tendance litigieuse qui, eux, sont mis à l'index par association. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça peut arriver, effectivement. Puis je ne dis pas que tous les albums à thème litigieux sont bannis sur Discogs. Non, ça va par, j'imagine, par plainte.
Ouais.
Et ensuite...
C'est Internet, hein? Il y a toujours quelqu'un qui peut ajouter jusqu'à temps que quelqu'un le retire.
Ah, exactement, exactement. Ensuite, on a des items qui sont hors 2B aussi, qui sont bannis, comme tu disais, ceux-là qui ne sont pas présents, mais tu as aussi des albums qui sont très rares. Je prends exemple Rivière du Nord au Québec avec l'album Paysage mortuaire. C'est une tape limitée à 10 copies que même Saint-Régis et Kevin n'ont pas. Donc, en tant que tel, quelle est la valeur de cette tape-là vu qu'elle n'a jamais été vendue? C'est quoi le pourcentage de chances qu'une tape limitée à 10 copies finisse par échoir sur Discog? Bonne question, mais c'est quoi sa valeur? 2$, 10$, 100$, who knows? On ne le sait pas.
Ben, je te dirais que quand tu fais quelque chose limité à 10 copies, tu as tellement toi-même créé la rareté que ça ne vaut pas plus cher.
Non, ça ne vaut pas plus cher.
Moi, je trouve que ça vaut gros max 10$ avec le shipping.
Je suis bien d'accord, mais mettons qu'il y a une demande de Mongol, puis ça devient le ben le plus incroyable du monde.
Ouais, je suis d'accord, mais dans le moment, c'est pas
non, ça. Non, on est très loin de ça.
Tu sais, je connais le ben, j'ai entendu la musique, mais tu sais, j'ai pas cherché la cassette.
Non.
Mais bon, mais je comprends que, mettons que dans 3-4 ans, ils sortent d'ici là, peut-être 2-3 releases, ça devient un ben culte. Les 10 copies vont valoir la peau des fesses.
Exactement.
Ouais.
Puis là, ben elle peut valoir la peau des fesses, mais t'as pas de valeur référentielle. C'est que t'as un guignol
ouais.
demain matin qui peut se réveiller, dit « Moi, je l'ai, j'essaie de la vendre 100$. »
Ouais, ouais.
Ça sort de nulle part.
C'est ça un chiffre arbitraire. Pour payer 100$ pour l'avoir.
T'as tout compris. Ouais. C'est que, devant cette situation-là, on est un peu dans le Far West en tant que tel mm-hmm. du prix. C'est que n'importe qui fait ce qu'ils veulent, ils affichent les prix qu'ils veulent. Puis en tant qu'acheteur, on est à la merci, on se fait tirer à la boulet rouge par les vendeurs.
Mm-hmm.
C'est vraiment désagréable. C'est que, en l'absence de code référentiel, je me dis, ah, ben, on va faire un test. J'ai suivi une enchère sur eBay. On va okay. faire un test, toi puis moi. Donc, c'est le moment quiz, la chronique.
OK.
Donc, dis-moi, j'ai suivi ça activement. Il y avait 7 CD de Peste Noire en vente sur eBay, dont la majorité était barrée sur Discog. Donc, impossible de savoir la valeur. Selon toi, à combien s'est terminée cette sympathique enchère?
C'était du bon Peste Noire ou du mauvais?
Il y en avait 7. Ça fait que du bon et du mauvais.
Il y avait des deux.
Ouais, puis que des CD, pas de tape.
Hmm. Hey, je sais pas, sérieux.
Je te donne deux chances en plus. Plus haut ou plus bas?
Mettons, le plus haut autour de 100$. Le plus bas, je dirais 20.
Ben, en fait, c'est 7 CD ensemble. C'est un lot.
OK, c'est un lot?
Ouais.
OK. Et bordel.
Ouais, je t'en pose une colle aujourd'hui, là.
OK, 7 CD. Mettons, j'en mettais un à 100$. Je vais dire 250.
Bon, tu peux monter. C'est ça, c'est ton premier guess. Moi, je tiens à 250, ah ouais. T'as les deux premiers. Là.
Ben, voyons donc. Je sais pas, moi, 800?
Alors, tu peux baisser un peu, okay. là, mais on va te le dire. C'est quand même 631 Canadiens plus shipping. Si le shipping aurait été gratis, ça aurait été un aubaine. Mais, non, mais sans blague, là, 631, ça veut dire environ 100$ du CD. C'est abject.
C'est-tu les premiers prints de
Je me rappelle pas, mais tu sais, la Samy okay. des siècles, les gens mm-hmm. pensent, là, mais tu sais, 700$ pour 7 CD, là,
c'est vraiment exorbitant comme prix.
Mais il y a quelqu'un qui a accepté de payer ça. Pour lui, c'était une aubaine. Mais dans l'optique que Discog aurait permis la vente de ces systèmes-là, peut-être qu'on se serait rendu compte que certains les aiment moins puis ils valent peut-être 40$ chaque. Peut-être qu'ils auraient été en vente. C'est là tout le problème de la castration de vente là-dessus. C'est qu'on n'a plus de cadre référentiel. On devient comme esclave de dire « Ah, ben ça doit valoir ça. J'en vois jamais. Je suis prêt. »
C'est ça le prix affiché, fait que si je le veux, j'ai comme pas le choix de payer.
Non, c'est un peu ça qui est tannant. Donc, tu sais, il faut se trouver un peu une solution à quelque part à travers ça. Mais les solutions sont partielles pour l'instant. Puis il y en a peut-être une que je peux vous parler aujourd'hui qui concerne plus les vinyles.
OK, mes parenthèses, juste avant que tu embarques là-dessus, j'étais un peu surpris parce que Peste Noire, il y a quand même eu des gros tirages. Là. C'est pas des affaires sorties à 100 copies. Là. Je veux dire, tu sais, quand tu as un nombre de copies limité, je comprends que ça peut monter vite comme ça, mais c'est, tu sais, y a-tu des plus vieux albums qui sont vraiment durs à trouver, puis c'est eux qui ont monté le prix, puis les derniers étaient à 10$?
D'après moi, oui. Sauf que les plus vieux, quand tu vas y trouver, malheureusement, ils vont être déjà affichés cher. Parce que c'est les plus vieux, ils ont une certaine renommée. Puis les plus récents, ben, il faut être capable encore de les voir passer. Comme je te dis, si tu regardes sur eBay chaque jour, tu vas finir par en voir passer.
Ouais.
Si tu peux pas les acheter sur Discog, ben, faut que tu aies un contact en France qui les a ou quelqu'un d'autre ou un forum obscur à quelque part.
Un label français qui avait fait du trade ou quelque chose. Okay.
Fait qu'à un moment donné, tu as le problème de je peux toutes les avoir en même temps.
Ouais.
Fait que, est-ce que ça vaut la peine que je mette plus? Je paye juste une fois du shipping. Ouais.
Et là, ça nous ramène à ton truc de ton autre chronique qui disait quand un album sort et que vous le voulez, achetez-le là.
Sinon, vous êtes condamné à jamais. Là.
C'est vrai. OK, good.
Et pour ce qui est de nos petites solutions vinyle, parce que malheureusement, ça ne concerne pas réellement les CD et les tapes. C'est une plateforme qui comprend, je pourrais dire, 95% vinyle. Ça s'appelle popsike.com. P-O-P-S-I-K-E.com.
OK.
C'est un site, c'est une grosse base de données qui roule sa bosse depuis 2004. Moi, j'ai connu ça environ dans ces années-là, 2004-2005. Donc, ça a 16 ans actuellement. C'est 15 millions de références. Références de quoi? D'enchères de eBay.
OK.
Ça fait que tu as un historique.
C'est lié à eBay, puis c'est carrément du référencement de qu'est-ce qu'il y a eu comme activité.
Quotidiennement, il y a un téléversement des enchères qui se finissent de vinyle sur eBay qui ont fini supérieur à 20 US. Je te dis pas que c'est l'ensemble de tout ce qui se fait, là, mais il doit y avoir des ratés un peu à quelque part, comme dans n'importe quoi. Mais si tu marques, mettons, Forteresse Métal Noir québécois, tu vas être capable d'avoir l'ensemble des enchères de Forteresse Métal Noir québécois qui se sont faites de, mettons, de l'apparition du vinyle. vinyle jusqu'à aujourd'hui. C'est que tu es capable de savoir, mettons, ah, l'année passée, c'est vendu tel prix. Tel gars essaie de me le vendre 600$ ici, je pense qu'il essaie de me fourrer.
Ouais, ouais.
Mais c'est sûr que là, lui, il n'est pas barré sur Discog parce que t'as un cadre référentiel là-bas. Mais
mm-hmm.
si on parle d'albums qui sont barrés, comme mettons les bootlegs, ben, t'es capable, mettons, d'aller chercher au moins un prix si tu le trouves sur PopSec. Ça fait okay. qu'au moins, ça te donne une belle alternative. Tu peux choisir ta monnaie canadienne, US, euro. Okay.
Okay.
C'est que t'es capable de faire un bon de conversion. Comme je dis, c'est... En plus, c'est alimenté à tous les jours, ça fait que ça, c'est agréable. Il y a juste un petit problème, c'est qu'au niveau de l'indexation, quand on affiche eBay, as-tu déjà affiché sur eBay?
Jadis.
OK.
Mais c'est... oui, ça
parce que, mettons, si tu veux vendre un album de Forteresse, des fois, tu vas mettre des mots-clés à côté. Tu peux mettre, on va dire Mayhem, on va mettre, Darktron, dire n'importe quoi, ou un autre band du Québec. Ben si, dans PopSec, tu vas chercher Forteresse... Ben, ça se peut qu'il y ait des bands que ça s'est mis le mot-clé Forteresse à côté, ben, ils vont sortir aussi. Okay. C'est que là, il faut que tu sois plus précis. C'est pour ça qu'en mettant le nom de l'album, tu viens un petit peu endiguer la chose.
Comme toutes les bands qui chantent en anglais et qui mettent hashtag Metal Noir Québec.
Ouais, ça, c'est une autre problématique.
On n'embarquera pas là-dessus.
Non, par pitié. L'autre problématique de la plateforme, malgré qu'elle soit bien pratique, c'est que tu as une limitation du nombre de recherches. C'est-à-dire qu'après 6 recherches, le site va dire « Ah, tu devrais peut-être t'inscrire. » Bon, on va être franc avec vous autres. Inscrivez-vous, ça ne coûte pas une calvaire de cernes, puis vous avez plus de recherches gratuites. Mais là encore, là, vous êtes limité. Mais pour le nombre de fois que vous allez vous en servir par année, ça ne vaut pas tant la peine de passer au second palier, parce que vous pouvez même payer 16€ par mois pour avoir des recherches illimitées, ce qui donne à peu près 300$ canadiens par année. Tant qu'à ça, mettez-les de côté.
C'est quand même dispendieux.
Oui, c'est dispendieux. Tant qu'à ça, 2 albums à 150$, puis c'est bien correct.
OK, donc c'est ça. Les frais pour l'inscription pour le site, ben vous pouvez vous acheter un album un peu plus dispendieux puis sauver cet argent-là, dans le fond.
Ben oui, c'est sûr et certain. Puis quand là, tu vas être capable d'aller chercher, mettons, le prix de ton picture disc, ben au moins, tu ne feras plus avoir par ton prochain.
Mm-hmm.
Mais... un coup, tu as regardé les tableaux, tu as considéré les graphiques qui sont fournis, à savoir aussi est-ce que le prix est juste et bon, parce qu'en tant qu'utilisateur, tu es capable de dire, de voter, est-ce que le prix est bon ou non. Mais encore là, c'est un peu arbitraire, parce qu'un prix pour certaines personnes est bon, pour certaines personnes, il est moins bon. C'est que ça,
On parle d'or, là. C'est comme rendu là, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend de combien tu es prêt à mettre.
Exactement. Sauf que des fois, c'est un peu outrancier, on ne se le cachera pas.
Oui, effectivement.
Un autre point positif, je pense, de PopSec, c'est d'être capable de faire le comparatif avec Discog. Même si on a la référence sur Discog, on peut toujours se dire, même si je me sers tout le temps de cet outil-là, est-ce que c'est valide comme point de vue? Est-ce que ce prix-là marche bien? C'est que là, tu peux le comparer ton prix avec eBay, puis avec Discog. Puis ça, pour l'imager, je vais prendre l'exemple de Shadowthrone. Parce que moi, je suis un tripeux de Satyricon Shadowthrone. Je caresse le douloureux désir d'avoir Shadowthrone original un jour.
Okay.
Et ce que m'en dit Discog, c'est que le prix médian est à 125$ canadien. Le ailleurs est à 1200. Bon, actuellement, qu'est-ce qu'on a, la tendance, c'est des gens qui poussent la note un peu puis qui essayent de te vendre ça 1200$ canadiens, VG+, pas de poster. Je m'en tirerai pas, il y en a un avec un poster, VG+, mais je trouve ça cher.
Qu'est-ce que tu veux dire, VG+?
C'est le grading du vinyle ou encore de la pochette.
OK, OK.
Et le Near Mint, donc la quasi-perfection, ils vendent 1800$ sur Discog. Bon, ce qui est encore
un peu fort. Ça, c'est quelqu'un qui l'a acheté et qui l'a juste pas ouvert.
Oui, ça, c'est un problème qu'on finira par jaser dans une autre chronique. On y viendra.
Okay.
Quand on regarde PopSec, comment voulez-vous que je paye 1800$ pour un Near Mint ou 1200$ pour un VG+, pas de poster, quand j'ai déjà suivi l'enchère en plus en live, c'est que je me rappelais qu'elle existait. En 2019, il y a une copie, si ma mémoire est bonne, c'est du Chili. Le Satyricon Shadowthrone était Near Mint avec un poster signé par Frost et Satyr, avec 3 flyers bonus. La pochette était signée par Frost et Satyr.
OK.
Ça s'est vendu à 940 cannes. Vous allez me dire, c'est cher, mais ça demeure quand même la quintessence du collectionneur parce qu'il est parfait. Il est signé de partout par les deux membres fondateurs, puis il n'est même pas à 1000$ avec le shipping. Pourquoi je paierais 1200$ avec une copie pas de poster qui va peut-être sonner un peu à scrap?
Mais effectivement, tu vois, à 900 pour cette version-là, j'allais presque dire que c'est pas si cher.
Ben voilà.
Mais effectivement, 1200 pour juste le CD. Et c'est un pensez-y bien.
Puis là, t'en viens à te dire, OK, mais mettons, là, il n'y a pas de signature. Comment faudrait que je le paye? Bien, entre 500 et 700 piastres pour un Irmind.
Ouais.
Ça fait que la réponse de Discog de 526 pour le médian n'est pas fausse.
Oui, oui.
Discog n'est pas dans le champ.
Effectivement. Puis, il y a aussi, je ne sais pas, mais il y a comme... Y a, moi, j'appelle ça la barre morale. Moi, c'est comme si je prête de l'argent à quelqu'un. Tu sais, en bas de 20 piastres, je leur demanderais pas. Si le gars il essaie de me fourrer, il va me fourrer. En haut de 20 piastres, je vais dire, hey, tu te rappelles-tu que tu me dois 20 piastres, tu sais? Ouais. Ben là, quand tu tombes à 900, tu es à 3 chiffres. Passé à 1002, t'es dans 4 chiffres. Il y a la barre morale du 4 ouais. chiffres, je trouve.
Comme un de mes amis qui me dit tout le temps, Michel, si on veut vendre de quoi, mets-le à 24,99. On le met pas à 25 piastres, c'est la barrière psychologique.
Exact, exact. Mais
tout ça pour dire que PopSag va peut-être nous aider à considérer un gars qui est un crosseur qui essaye de nous vendre un Battery Banzai à 700$, qui a une toune qui fait tic-tac-toc, puis que la pochette est tout croche quand il essaye de justifier que les dernières enchères ou les dernières ventes sur Discog se sont vendues à 1000-1200, mais c'était pour des Nirmint. Fait qu'il y a tout le temps ce genre d'abuseur public-là qui existe en ce bon monde. Donc, c'est à faire attention. Puis je pense que, justement, PopSag peut vous apporter le moyen de faire un comparatif pour trouver, oui, ce que vous ne trouvez pas sur Discog quand vient le temps en matière de prix, mais aussi pour faire un comparatif.
Mm-hmm.
Puis, comme dernier point, aujourd'hui, j'aimerais ça revenir sur le fameux Skrill très rapidement, que oui. j'avais mis Krill avec un... J'avais oublié le S, ça a l'air, mais quoi que... On l'a posté sur les réseaux sociaux exact. Aussi, le site.
Sur le compte Instagram, il y a une photo par rapport à ça, d'ailleurs, puis, que tu avais envoyé.
Je voulais revenir sur le sujet, parce que je me suis dit, je vais creuser un peu, parce que c'est pas place que deux de mes amis qui se sont fait avoir, que c'était nécessairement mauvais, me dire, je vais me brusquer un peu. Puis j'ai décidé de confronter mes préjugés, et qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est fondé en 2001 par une entreprise britannique, anciennement Money Booker, ça semble un peu suspect, là, mais okay. bon.
Mais un petit peu, avant oui. d'aller plus loin, là, oui. le Skrill, c'est une monnaie comme le Bitcoin ou quelque chose d'autre genre, c'est
non,
ça?
Non, c'est un service de paiement en ligne comme PayPal. Et okay, que tu es capable, bon, c'est bon. De, dans le fond, de, grâce à ton compte, d'aller vers les cryptos.
Okay.
C'est un genre de compte en tant que tel. Il y a 30 millions d'utilisateurs de ça dans le monde. C'est que là, tu te dis...
Ah, quand même!
Ah, mais 30 millions, tu ne dois pas être si croche que ça. Ben oui et non. Oui et non dans le sens que, moi, ce que j'ai lu, c'est mauvais support avec l'équipe de Skrill. Bon, des frais ouais. d'inactivité. Bon, historique de restriction de compte massive. Faut que tu donnes des pièces justificatives à plus savoir quoi en faire. Puis il y a des gens qui se découragent puis ils réussissent jamais à avoir leur argent.
Okay.
Et le point vraiment litigieux, selon moi, qui ressemble beaucoup à Western Union, c'est un coup que tu as envoyé ton argent. C'est un paiement final. Tu n'as pas de gestionnaire de litige. Tu
n'as aucun recours s'il y a de quoi qui
ça fait. Il y a beaucoup de gens, moi, que j'ai lu et regardé, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en servent pour faire des mises sportives. C'est quand tu fais une mise sportive, ton argent, que tu t'en fous qu'il ne revienne pas parce que tu fais affaire avec un ouais. site de mise en ligne. Mm-hmm. Ça, c'est correct. Mais quand tu achètes un item, tu attends un retour.
Oui, oui, exact. La course ou le pari que tu prends, au pire, tu as perdu ton argent. Si tu fais un gain, tant mieux.
Mm-hmm.
Quand tu achètes un item, tu attends d'avoir, c'est ça, un retour sur l'argent que tu as donné.
Voilà. Ça fait que ouais. si vous décidez d'utiliser Skrill, ce que je ne vous recommande pas, checkez donc la nationalité de la personne à qui vous achetez. Puis mm-hmm. tant qu'à ça, allez magasiner sur une boutique en ligne qui utilise peut-être pas PayPal, puis on va dire que c'est un travailleur social hongrois. Puis envoyez-lui 40 euros, 40 US par la poste, puis vous avez plus de chances, d'après moi, de recevoir mm-hmm. votre dû qu'envoyer de l'argent en Skrill sur Discord. Moi, j'ai bien de la misère à tolérer ça.
Bien, puis de toute façon, il y a tellement d'autres plateformes. Tu sais, tu parlais de PayPal, là, qui est quand même...
Qui a fait ses preuves.
Qui a fait ses preuves, qui est là depuis quand même longtemps. Il y en a plein. Il y avait, je pense, c'est Xsum aussi. Là.
Ça me dit rien.
Moi, j'ai déjà fait... dans le temps, j'avais fait faire des patchs pour un de mes bands. Puis c'était un gars qui était au Pérou.
OK.
Puis, à l'époque, là-bas... Fouille-moi, est-ce que le Péruvien m'a dit de la merde ou c'était vrai? Bref, PayPal était comme interdit sur l'Internet là-bas.
Okay.
Fait qu'on pouvait pas faire le paiement par Internet. Regarde, je m'en rappelle, c'est comme si c'était hier, je vais pouvoir la compter là. Ma commande en vrai, là, elle me coûtait une affaire comme. C'était autour de 120 ou. C'était 120-130 $ canadiens qu'il fallait que j'envoie. Puis, quand il m'a dit justement que le PayPal était interdit et tout, j'ai fait. Moi, vite de même, ma solution était le virement bancaire. Je me suis présenté à la caisse et ou dans une banque, peu importe, en disant « Salut, je veux virer 130 $ dans tel compte au Pérou. » Et là, la fille au comptoir me dit que ça coûtait 235 $ de frais.
Voilà.
En plus de mon 130 $ canadien. Ce à quoi j'ai dit, t'es donc ben conne, tu me coûtes le double de casser que j'envoie. C'est qui l'imbécile qui va payer pour ton service de merde? Fait ça, après, je me suis fait virer. Donc, j'ai foutu le cash chez nous. J'ai réécrit au gars, j'ai dit, écoute, j'ai dit, le virement bancaire, mon homme, c'est oublie ça avec moi. Fait que tu vas trouver une autre façon que je t'envoie de l'argent parce que j'envoie pas ça comme ça. Et c'était une affaire qui s'appelle, je pense que c'était XOOM. Puis avec un quelque chose après, là, puis c'était carrément un peu comme Skrill, là, c'était une plateforme comme PayPal que j'envoyais mon argent à ce gars-là, puis ça m'a coûté 52 cents de frais.
OK.
Fait que, tu sais, au lieu de coûter le 230 quelques piastres que la fille de la caisse de la banque me demandait, ça m'a coûté 130 et 52 pour envoyer mon argent.
Okay.
Ça avait fonctionné. J'ai utilisé ce service-là une fois. Je ne l'ai jamais réutilisé. Puis, quand c'est arrivé, parce que ça passait par Visa, j'ai appelé Visa, j'ai dit « Vous me bloquez cette adresse-là après ce paiement-là pour être sûr de ne pas me faire hacker puis tout. » mais c'est ça, il y en a plein, là. C'est juste, ils sont peut-être moins connus ici.
Alors, c'est sûr.
Mais tu sais, il y a des plateformes qui sont connues ailleurs qui fonctionnent très, très bien aussi.
Je peux-tu faire un aparté sur les virements bancaires?
Oui, oui.
J'avais acheté quelque chose à Stéphane de No Callers que je vais parler dans une autre chronique. Puis justement, lui, il n'a pas PayPal pour des raisons X. Puis il a fallu que je le paye par virement bancaire. Mais étant donné que quand tu es en Europe, dans la zone euro, les virements bancaires, ils n'ont pas de frais entre eux autres. Ça fait que pour eux autres, c'est clair et simple. C'est fais-moi un virement bancaire. Mais quand tu es hors de la zone euro...
Tu te fais fister.
Eh bien, eux, le montant que j'ai envoyé a été amputé, je dirais, du tiers.
Ouais.
De son côté, ça fait qu'on a fini par trouver un arrangement que j'allais y envoyer un certain montant par la poste, puis que la balance, ben il perdait. C'est qu'on est... Moi, je payais plus cher, puis lui, il perdait un bout de la transaction parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Ça fait que si vous faites des transactions avec des Européens puis ils vous demandent de payer par virement bancaire, moi, je vous le conseille plus ou moins encore parce que vous allez peut-être vous ramasser d'une situation de litige comme moi, je l'ai été avec Stéphane de No Callers.
Ou que vous avez... Tu sais, l'autre solution, c'est d'avoir un pote européen à qui tu dis, garde, moi je vais te virer par PayPal tant d'argent, peux-tu faire ma commande pour moi? Puis il y a tellement de façons.
Ben oui.
Là, en 2020, là, l'Europe, c'est pas si loin. Là.
Ben non, c'est à côté, c'est un clic.
C'est exact, exact. Excellent. Très cool. T'avais-tu d'autres choses?
Non, tout est bon pour cette semaine.
Excellent. Ben, un gros merci à toi.
Hey, ça fait plaisir.
Puis première expérience en studio, c'est quand même...
Oui, c'est différent. Il y a des murs qui sont différents de chez nous.
Yeah.
T'es un peu intimidé, je ne sors pas de chez nous.
Good. Merci beaucoup, Michel.
Hey, plaisir. Bonne semaine.
Et c'était donc la boîte de Pandore avec Michel Perron. Et ben j'espère que vous avez appris quelque chose de tout ça. Et nous autres, on va reparler avec lui dans 2 épisodes. Et là, sans plus tarder, on s'en va entendre un ben... J'ai sorti une affaire des Boulamites. On s'en va entendre un ben norvégien qui s'appelle Tartaros avec une pièce qui s'intitule « Dark Red Light Upon the Bomos ». OK, donc on vient d'entendre les Norvégiens de Tartaros. Et là, ben, on arrive au moment de la chronique à Quentin Fourreau. C'est le conte du soupirail. Et là, cette semaine, il nous amène à quelque part, justement, où ce qu'on n'est pas là encore, on s'en va en Grèce avec le conte qui est un peu à la base de tout ce qui est par rapport au à la lycanthropie, au loup-garou. Et ça s'appelle, c'est le conte de Lycaon. Donc, on s'en va rejoindre Quentin à l'instant.
La sauvagerie des hommes vient de la soif de la terre. Après des millénaires de foudre et de ravages, les dieux de l'Olympe, menés par Zeus depuis les sommets de la Grèce, ont vaincu la furie des géants, nés comme eux des étreintes du ciel et de la terre, mais sauvages et violents. En les écorchant pour de bon, Zeus a laissé sur la terre des hommes couler le sang bouillant et carnassier de la race des géants. Et plus tard, bien plus tard dans l'histoire du monde, lorsqu'Héphaïstos a forgé les êtres vivants, il a pris de cette terre barbare qu'il a mêlée au feu et à l'eau et à l'air. Voilà, voilà d'où vient la sauvagerie des premiers temps des hommes, lorsqu'au banquet de l'Olympe, on dévorait nos semblables quand la viande venait à manquer. Et lorsque devant les dieux eux-mêmes, on saignait des hommes après les combats pour que les forces voyagent de corps en corps. Puis la foudre nous a destinés à la terre depuis les sommets. Zeus, avant de punir Prométhée, a fait chuter les hommes pour les condamner à arpenter la surface du monde, pour ne plus jamais laisser un seul d'entre eux menacer son trône par la sauvagerie. Alors, au creux des vallées, dans les plaines, sur les côtes, les rois et les prêtres ont fait bâtir des temples, des autels, des fontaines, des citadelles, des murailles, des tours de garde, des sanctuaires, des nécropoles, des palais. Ils se sont dotés des prières, des écritures et des lois. Mais ces lois ne pouvaient tenir chaque homme en paix. Et le sang de la barbarie peut même couler dans les veines d'un roi. En Arcadie, le roi Lycaon continuait de bâtir la puissante cité de ses ancêtres, et il régnait sur ses terres avec justice et bonté. Mais la nuit venue, son esprit s'emplissait de vices et de perversions. Plus il était bon et grand le jour, plus sa famille et ses domestiques le craignaient la nuit, car il se vengeait de sa bonté par la violence, il se vengeait de sa patience par la folie. Pourquoi son cuisinier avait-il un œil crevé? Pourquoi deux de ses serviteurs avaient-ils chacun un bras tranché? Et pourquoi est-ce qu'on ne revoyait jamais les mendiants et les esclaves qui venaient à son palais? C'est que Lycaon, le bon roi Lycaon, aimait regarder ses gens dormir avant de les mutiler, de les saigner et de les livrer à sa cuisine. Plus il éloignait son peuple de la sauvagerie, plus il se vautrait lui-même dans celle qui lui restait dans le sang. Un jour, Zeus a décidé d'arpenter le monde des hommes sous la forme d'un berger, pour vérifier qu'aucun mortel ne complotait contre l'Olympe. Et ce soir-là, il voulait inspecter l'Arcadie. Il s'est présenté, la tête basse et la barbe sale, au palais du roi Lycaon, et on l'a accueilli, avec grande bonté, avec les honneurs, avec la bienveillance, et on lui a dit qu'un immense banquet se préparait pour les pauvres, la nuit même. Et quand le roi a vu la mine pâle, la peau creusée, la barbe souillée du berger, il s'imaginait déjà le regarder dormir, et puis s'approcher de sa gorge, et puis lécher sa sueur, et puis passer sa lame dans sa chair, mais ses yeux-là,
ce regard-là. Ah, il en avait assassiné des mendiants, des vieilles carnes errantes. Mais aucun n'avait l'œil aussi sévère, la pupille aussi profonde. Et cet éclair dans ses yeux comme s'il venait du fond du monde. Cet homme n'était peut-être pas un homme. Et sa sauvagerie, au roi, elle ne tuait que des hommes. Mais alors, qu'est-ce qu'il était ? Une bête ? Une bête comme lui ? Comme lui rêve d'en être une ? Il n'avait pas encore vu ses dents, après tout. C'était peut-être une bête quand la nuit arrivait. Il fallait en être sûr. Et pour en être sûr, il fallait l'épreuve de la chair. Durant le banquet, il lui ferait goûter la chair interdite. Et il verrait alors si c'est une bête ou si c'est un homme à tuer. Le banquet était dressé. Il était entouré de torches et d'esclaves molosses. Les loqueteux, les lépreux, les pauvres avaient tous pris place, et Zeus était parmi eux et il les regardait tous. Et à tous on a apporté la soupe, le pain du jour, l'eau des sources. Et puis on a apporté les viandes découpées et hachées dans de grands plats en terre. Zeus a plongé ses doigts noirs dans la chair fumante, et il l'a portée à sa barbe. En la faisant couler sur sa langue, il a froncé les sourcils. Sur ses yeux de foudre, ce goût-là entre ses dents, oui, il le reconnaissait, c'était du bœuf, mais là. Il a plongé de nouveau ses mains dans sa chair, oui, là, là, c'est une chair servile, c'est celle d'un corps des terres épires, un esclave, un homme tué et haché dans mon auge, mais encore, là, ce goût affreux, rance mais si frais toujours, avec le sang acide de la jeunesse, et la même odeur que celle du roi, c'est son fils. Et le roi des dieux a rugi comme une bête en crachant la chair interdite de l'esclave et du prince mêlée à celle du bœuf. La foudre de ses yeux a mis le feu à la salle du banquet, et les pauvres et les malades en sont tous devenus aveugles. Dans sa majesté de fureur, Zeus a saisi à la gorge le roi d'Arcadie, et il l'a jeté à quatre pattes sur le sol couvert de chair morte, et il a hurlé « Roi des bêtes fauves, tu veux me faire manger la chair des hommes ? Tu voulais savoir si j'en étais un ? Je suis le sommet du monde, je suis le vainqueur des géants, et toi, tu glorifies leur sang ? Tu m'as donné ton fils à manger, tu n'es qu'une bête, et tu ne seras plus jamais qu'une bête. Va à la bête, et essaye de ne pas manger d'homme dans les grands bois. Va à la bête, va !» Et sous le poing du dieu poussait la crinière d'un loup, et la bave du roi devenait la rage des loups, et les os du roi se sont brisés, et la chair du roi a senti la bête, et les griffes qui ont poussé sur les mains du roi ont attaqué, ont entamé le bras flamboyant de la vengeance divine. Et voilà que s'enfuit en hurlant du palais en flammes le premier de la race lycanthrope. Celui dont les mâchoires dévorent les siècles, les tripes et les peurs des hommes. Du fond de l'ancienne Grèce est né le loup-garou.
Lycaon, mythe grec, mentionné dans les Métamorphoses d'Ovide au 1er siècle après Jésus-Christ, et dans Description de la Grèce de Pausaniate le Périégète au 2e siècle après Jésus-Christ.
Et c'était le conte du soupirail avec Quentin Fourreau. Quentin, que vous pouvez suivre sur les internets, il est justement sur Facebook, sur Instagram, il fait ses contes, d'autres contes qu'il fait que ceux dans le soupirail, à partir de ces plateformes-là. Donc, je vous invite à suivre, à aller mettre un petit like sur sa page. Inscrivez-vous pour voir justement ses progressions. Puis, je sais qu'il travaille sur du nouveau matériel ces temps-ci, fait qu'on a bien hâte d'entendre ça. Et là, ben, nous, on arrive à la fin de l'épisode de cette semaine. Je voudrais dire, premièrement, un gros merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de partager, de vous abonner sur les réseaux sociaux, de vous abonner carrément au podcast sur vos plateformes de balado-diffusion préférées. On a toujours un litige avec Spotify qui, malgré ça, ne s'empêche pas de prélever de l'argent sur ma Visa à chaque mois. Mais éventuellement, on va essayer de régler ça pour être sur cette plateforme-là. Mais sinon, toutes les autres plateformes de balado-diffusion, on est accessible là-dessus. Souterrain Podcast, partagez-le à vos proches. Et ben, c'est pas mal ça. Donc, merci aussi aux membres de l'équipe. Merci à Michel pour la chronique de la boîte de Pandore. Merci à Quentin. Merci à Doom de la chronique Gear et à Pierre-Yves de la chronique des nouveautés que vous aurez dans le prochain épisode. Merci aussi à Yaoi Nguyen qui fait notre montage audio. Merci à Monarque pour le thème du début d'émission, à Gansé pour le thème de fin et à Moribond pour le logo. Donc, c'est pas mal ça. Je pense, j'en oublie-tu? Je pense, j'ai... Qui?
La station.
Ah oui, c'est vrai. Un gros merci à CJMD qui nous permet de taper tout ça dans les studios de CJMD à Lévis. Puis, vous aurez entendu dans cet épisode une petite pub d'Ars Macabra. Ben justement, je vous invite aussi à, si vous avez aimé le show puis que vous voulez entendre quelque chose peut-être d'un petit peu différent, mais toujours dans le métal, vous pouvez toujours aller faire un tour sur la page d'Ars Macabra aussi. Ça va être deux shows incestueux avec lesquels on va faire la publicité des deux bords. On a évidemment Pierre-Yves qui, en plus de sa chronique, qui fait aussi les réseaux sociaux pour les deux shows. Donc, merci et salutations spéciales à lui. Fait que sur ce, ben merci à tout le monde. On se dit à la semaine prochaine.